VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 27 août 2019. En direct de Washington, Idriss Assedoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la très influente Senko estime qu'il est permis de croire qu'on va dans une direction nouvelle après la formation du nouveau gouvernement.
Au Cameroun, des milliers de personnes ont quitté ces derniers jours les régions anglophones du pays.
En Guinée, des dizaines de journalistes manifestent à Conakry contre le harcèlement des médias privés.
Le président américain Donald Trump se dit prêt à rencontrer très prochainement son homologue iranien Hassan Rouhani si, et je cite, « les circonstances sont réunies ».
Le Brésil rejette l'aide du G7 pour combattre les incendies en Amazonie et conseille au président français Emmanuel Macron de s'occuper, je cite, de sa maison et de ses colonies.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
RDC, retour sur le prochain gouvernement de coalition de 66 membres qui a été dévoilé hier après des mois de négociations. Le point avec Irénée Herman Oumbo.
Les proches de M. Joseph Kabila, qui sont majoritaires au Parlement, se taillent la part du lion dans l'exécutif, avec entre autres la justice, les finances et la défense. Les partisans du président Félix Tshisekedi empochent les affaires étrangères et l'intérieur. M. Tshisekedi a pu s'envoler vers Tokyo pour participer au sommet Afrique-Japon à Yokohama. L'Assemblée est réunie jusqu'au 7 septembre en session extraordinaire et doit investir ce nouveau gouvernement. La nouvelle équipe est saluée par la très influente Église catholique, qui veut croire qu'on va dans une direction nouvelle. La même conférence épiscopale avait émis des doutes sur la validité de l'élection de M. Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection du 30 décembre, laissant entendre que le véritable vainqueur était Martin Fayulu. D'après l'ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer, les États-Unis sont prêts à travailler avec le nouveau gouvernement pour faire avancer le partenariat US-RDC pour promouvoir la paix et la prospérité.
Au Mozambique, meurtrière à Maputo de Louis Baziga, 47 ans, président d'une association de la diaspora rwandaise, considérée comme un proche du régime du président Paul Kagame. Selon la police locale, Louis Baziga a été atteint par plusieurs coups de feu tirés par trois individus armés alors qu'il circulait à bord de son véhicule à Maputo. Il est décédé de ses blessures à l'hôpital. Ces trois agresseurs présumés ont réussi à prendre la fuite à bord d'un véhicule 4x4, a précisé la police qui n'a livré aucune hypothèse sur les causes de l'homicide.
Au Cameroun, des milliers de personnes ont quitté ces derniers jours les régions anglophones, redoutant une escalade des violences après l'appel des séparatistes à des journées villes mortes. Le point avec John Lyndon.
James Noonan, du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, a affirmé qu'un nombre important de personnes ont fui les villes de Bamenda, Kumba et Boya. Selon lui, ce seraient des milliers, mais difficile de donner un chiffre exact. À Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, de nombreux départs ont été observés depuis vendredi, d'après Roland Goran de l'ONG Plan International dans cette ville. De nombreuses personnes ont aussi quitté Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, selon le responsable d'une ONG qui a requis l'anonymat. C'est bientôt la rentrée des classes et de nombreux parents envoient leurs enfants hors de ces régions pour qu'ils poursuivent leurs études. Depuis le début de la crise, plus de 4400 écoles ont fermé dans les régions anglophones. Mardi, un tribunal militaire de Yaoundé a condamné Julius Ayuk Tabe, leader séparatiste, à la prison à perpétuité. Cela a provoqué la colère de ses partisans qui ont appelé les habitants de ces régions à observer à partir d'hier lundi des journées villes mortes.
Par ailleurs, la radio d'État camerounaise et une source sécuritaire locale signalent qu'au moins trois personnes ont péri et plusieurs dizaines d'autres ont été portées disparues dans le naufrage d'un navire au large des côtes camerounaises dans la nuit de dimanche à lundi. 107 personnes vivantes ont été sorties des eaux ainsi que trois dépouilles. Sur mer, les recherches se poursuivent et on parle de 40 disparus, a indiqué lundi soir la CRTV.
En Guinée, des dizaines de journalistes ont manifesté hier à Conakry pour dénoncer le harcèlement des médias privés après l'inculpation pour diffamation et le placement sous contrôle judiciaire de deux journalistes. Des détails avec Ekia Badou.
non au harcèlement, non au bâillonnement de la presse, ont scandé les journalistes devant le siège de la Haute Autorité de la Communication à Conakry. Journalistes interpellés, journalistes emprisonnés, nous réclamons notre liberté, ont scandé les manifestants. Ils ont déposé un mémorandum au siège de la HAC pour exprimer leur colère face à la dégradation des libertés de la presse dans le pays. Souleymane Diallo, administrateur du groupe de presse Le Lynx, et Boubacar Diallo, journaliste de la radio du même groupe, ont été inculpés pour diffamation et placés sous contrôle judiciaire à Conakry. Ces poursuites font suite à une intervention sur la radio Lynx FM d'une auditrice accusant le ministre de la Défense, Mohamed Diané, d'avoir détourné de l'argent destiné à des casques bleus guinéens. La Guinée occupe la 107e place dans le classement 2019 de Reporters sans frontières sur 180 pays dans le monde.
Au Libéria, 5 anciens responsables de la Banque centrale, dont un fils de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, ont plaidé hier non coupables des accusations de blanchiment, complot criminel et sabotage économique. Accusation portée contre eux dans une retentissante affaire liée à l'entrée de billets dans le pays entre 2016 et 2018. Il leur est notamment reproché d'avoir fait imprimer sans autorisation un excédent de billets pour un montant de 2,645 milliards de dollars libériens dont ils ne peuvent justifier l'utilisation selon l'accusation.
Les États-Unis vont surveiller de près l'engagement du gouvernement de transition du Soudan en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix avant de biffer ce pays de leur liste d'États parrainant le terrorisme. Ils se disent encouragés par les premiers contacts avec le nouveau premier ministre de la transition, l'économiste Abdallah Hamdok, qui a prêté serment dimanche, 4 mois après la chute de l'ex-président Omar al-Béchir. Mais les officiels américains sont préoccupés par l'homme fort soudanais, le général Mohamed Hamdan Dagalo, appelé Hemedti, et son rôle dans les forces de soutien rapide.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a laissé entrevoir lundi une possible percée dans la crise iranienne, en jugeant réaliste une rencontre prochaine avec le président iranien Hassan Rouhani, qui a lui aussi défendu la carte diplomatique. Jean-Roger Bion.
À la question « Est-il réaliste que vous rencontrez M. Rouhani dans les prochaines semaines ?», Donald Trump a répondu par l'affirmative à l'issue du sommet du G7 à Biarritz en France. Donald Trump, qui avait dénoncé avec fracas l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 et exerce depuis une pression maximale sur l'Iran, a néanmoins mis une condition à une telle rencontre, que les circonstances soient réunies. Mais un vent nouveau semble souffler sur ce dossier très sensible qui empoisonne les relations internationales et a amené le Golfe au bord de l'embrasement cet été. Les discussions au sommet du G7 ont créé les conditions d'une rencontre et donc d'un accord, a estimé le président français Emmanuel Macron, qui avait mis ce dossier tout en haut de son agenda à Biarritz. Dès dimanche, Emmanuel Macron, qui mène une médiation active en vue d'une désescalade dans la région, avait signé un coup diplomatique en invitant le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif à Biarritz. À Téhéran, le président Hassan Rouhani s'est lui aussi montré ouvert au dialogue, malgré les critiques de l'aile dure du régime sur la visite surprise de son ministre des Affaires étrangères en France.
Et le président Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont souligné qu'il y a eu unité au sommet du G7 sur les questions majeures, malgré des divergences évidentes dans une réunion dominée par les questions commerciales, le programme nucléaire iranien et les incendies qui ravagent l'Amazonie. Des leaders du G7 ont exprimé leur inquiétude quant à l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais le président américain a dit avoir reçu des signaux positifs de la part de Pékin, ajoutant que les Chinois veulent désespérément un accord. Pour M. Macron, un tel accord aiderait à dissiper les nuages qui planent au-dessus des marchés à travers le monde.
Le Brésil a rejeté hier l'aide de 20 millions de dollars proposée par les pays du G7 pour combattre les incendies en Amazonie, a annoncé le chef de cabinet du président brésilien. Ce dernier a conseillé au président français Emmanuel Macron de s'occuper, et je cite, de sa maison et de ses colonies. Hier, on soulignait que ces feux feux de forêt avaient encore progressé. Mais pour le ministre brésilien de la Défense, ces incendies étaient sous contrôle après le déploiement de plus de 2500 militaires et des pluies signalées dans plusieurs des régions concernées. La situation a été un peu exagérée, a ajouté Fernando Azevedo e Silva à la sortie d'une réunion avec le président Jair Bolsonaro.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Kenya a exporté ses premiers barils de pétrole provenant de la région du Turkana dans le nord-ouest. Il s'agit de 200 000 barils achetés par la société chinoise Chem China pour 1,2 million de dollars et destinés à la Malaisie. Selon l'accord sur le partage, 75% des revenus pétroliers iront au gouvernement kényan, 20% au comté du Turkana et 5% aux communautés locales. Le Kenya ambitionne de transporter environ 100 000 barils par jour dans les années à venir. L'Afrique du Sud a saisi un Airbus de la compagnie nationale Air Tanzania pour des impayés de 33 millions de dollars réclamés par un fermier dont les terres ont été nationalisées dans les années 80. Le propriétaire terrien, un Tanzanien, avait obtenu des compensations de 36 millions, mais le gouvernement ne lui a versé que 20 millions. Avec les intérêts de retard accumulés, les 16 millions manquants se sont transformés au fil des années en 33 millions de dollars. L'appareil saisi est estimé à environ 90 millions de dollars. Pour finir cette minute éco, Maroc Télécom, le plus grand opérateur de télécommunications au Maroc, a signé un contrat de 1 milliard de dollars avec le gouvernement marocain pour développer une infrastructure de télécommunications au cours des 3 prochaines années. L'accord porte sur le haut débit mobile. L'entreprise totalise 63 millions d'utilisateurs dans plusieurs pays africains.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les demi-finales des Jeux africains en football se jouent ce soir.
Oui, les affiches des demi-finales sont connues depuis le week-end écoulé. Le Sénégal, champion en titre, fera face au Burkina Faso et le Mali jouera le Nigeria. On fait le point avec Kader Traoré sur place à Rabat.
Les derniers matchs de poule au niveau du football se sont joués le week-end écoulé à Rabat et El Mansouria. Chez les hommes, le Sénégal, le Mali, le Nigeria et le Burkina Faso se sont qualifiés pour les demi-finales. Les étalons n'ont pas fait dans la dentelle face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, battu 4-0. Pour le coach burkinabé Oscar Baro, son équipe a joué sur ses vraies valeurs, ce qui a permis de dominer les Sud-Africains.
L'entrée de jeu, c'était pas donné. Elle a essayé de nous bousculer, mais nous sommes restés sur nos principes. L'équipe que nous allons rencontrer, nous allons la jouer avec notre état d'esprit que nous avons actuellement et nous allons nous préparer en conséquence et puis aborder les demi-finales.
En demi-finale, donc, le Burkina Faso, premier du groupe A, croisera le Sénégal, deuxième du groupe B. Dans l'autre demi, le Mali sera face au Nigeria. Au tableau des médailles, l'Égypte est toujours en tête avec 85 médailles, dont 27 en or. L'Afrique du Sud arrive en deuxième position avec 55 médailles et le Maroc ferme le podium avec 41 médailles. Kader Traoré, à Rabat, pour VOA Afrique.
Chez les dames, la finale opposera le Cameroun au Nigeria. En demi-finale hier, les Lions juniors marocaines ont vu leur rêve de titre s'envoler, battu par leurs homologues camerounaises 1-3 après prolongation. Pour sa part, le Nigeria n'a fait qu'une bouchée de l'Algérie, dominée 3-0. Le Maroc et l'Algérie se disputeront donc le bronze mercredi, tandis que le Nigeria et le Cameroun s'affronteront jeudi pour la médaille en or.
Emmanuel Adebayor jouera de nouveau en Turquie.
L'attaquant togolais s'est engagé en faveur de Kayserispor. Il a paraffé un contrat d'un an avec le club turc après avoir passé sa visite médicale. Kayserispor est actuellement 12e du championnat après 2 journées. Joris Gnagnon, lui, est de retour à Rennes un an après avoir quitté le club breton. Très peu utilisé au FC Séville et pas dans les plans de son entraîneur, le défenseur d'origine ivoirienne a été prêté au Stade Rennais pour une saison. Un renfort intéressant pour le club de Ligue 1 qui a commencé sa saison avec 3 victoires en 3 matchs.
En Europe, début réussi pour l'Inter Milan d'Antonio Conte et Romelu Lukaku.
Face au promu Lecce, les Nerazzurri se sont nettement imposés 4-0 grâce notamment à un but du Belge d'origine congolaise Romelu Lukaku en clôture de la première journée de Série A. En dehors du bon départ de l'Inter, cette première journée a aussi vu les succès plus difficiles de la Juventus, victorieuse 1-0 à Parme, et de Naples qui a renversé la Fiorentina de Ribéry 4-3. La Lazio Rome, le Torino et l'Atalanta Bergame ont aussi gagné, alors que l'AS Rome a été tenu en échec par le Genoa 3-3 et que l'AC Milan a débuté par un inquiétant revers sur le terrain de l'Udinese 1-0. Le week-end prochain, la Serie A connaîtra ses deux premiers chocs avec le derby Lazio-Roma et un duel entre la Juventus et Naples à Turin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des réactions à Kinshasa après la publication hier du premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Si dans l'opposition on est pessimiste quant aux chances de réussite de cette équipe, les activistes des droits de l'homme se sont, eux, félicités de l'exclusion de personnalités auteurs de violations des droits fondamentaux. Quant à la population, elle attend désormais ce nouveau gouvernement à l'œuvre. Reportage de Thierry Kamoundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Avec 66 personnes, le nouveau gouvernement congolais est loin de faire l'unanimité, surtout à l'opposition qui ne compte aucun de ses membres dans l'équipe de Sylvestre Ilunga. Tout en saluant la présence des femmes dans cette équipe, Madame Eve Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, parti membre de la coalition Lamuka, craint dans ce gouvernement l'influence négative du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila.
D'abord un gouvernement contesté par la majorité de la population. Le peuple a voté pour la rupture. Maintenant, nous allons vivre une continuité étant donné que c'est le FCC qui a la majorité et qui a présenté même un premier ministre et le programme sera présenté par le premier ministre issu du FCC. Comment est-ce que la population va s'en sortir? En tant que femme politique, je voudrais saluer la présence des femmes. Je voudrais qu'elles travaillent en faisant la différence et la bonne gouvernance parce qu'elles vont travailler dans un environnement très difficile.
Au niveau de la société civile, l'Association congolaise pour l'accès à la justice recommande au premier gouvernement de Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption et salue l'absence en son sein des personnalités sous sanctions internationales. Maître Georges Kapiamba.
Nous félicitons les hommes et les femmes qui sont nommés dans les gouvernements Ilunga et Ilunkamba, mais nous attirons leur attention sur le fait qu'ils doivent travailler exclusivement pour la réalisation du bien commun, qui doit passer par la lutte efficace et public contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'enrichissement illicite. Nous nous félicitons aussi le fait que le président de la République et le premier ministre aient écarté toutes les figures qui sont impliquées dans des violations graves des droits de l'homme et qui sont sous les sanctions internationales.
La représentativité féminine était l'un des enjeux de ce gouvernement. Rose Mutombo est la présidente du cadre de concertation de la femme congolaise.
Pour nous, le minimum c'était 30%, on est arrivé à 17%. On doit continuer nos plaidoyers. Mais ce qui nous réjouit plus, c'est la parole que le président nous avait donnée la dernière fois. Il nous avait dit que je mettrai des femmes à des postes souvent occupés par les hommes. Aujourd'hui, on a les affaires étrangères, on a l'économie et on a le plan. Les femmes dirigent ces ministères-là. Là, c'est une avancée. Mais par rapport au pourcentage, la lutte continue.
Dans les rues de Kinshasa, on attend désormais que le nouveau gouvernement se mette au travail.
Nous félicitons de la patience. Nous attendons maintenant le travail, concrétisation surtout de la politique du chef de l'État.
On l'a attendu depuis près de 7 mois. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir des gens qui vont répondre aux aspirations de la population congolaise. Ce ne sont pas des gens qui viennent juste pour s'enrichir.
Nous, on a beaucoup attendu le gouvernement. Nous, nous sommes dans la joie. Nous attendons maintenant le gouvernement responsable faire des travaux sur le terrain.
Kinshasa, Thierry Kamoundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Guinée, une pluie battante n'a pas empêché plusieurs dizaines de milliers de professionnels des médias de sortir hier pour exiger le respect des libertés pour deux journalistes inculpés et placés sous contrôle judiciaire. Reportage de notre correspondant Zakaria Kamara.
Depuis l'aube, il pleut à verse sur Conakry.
Liberté, liberté,
Mais ces intempéries n'ont pas empêché plusieurs dizaines de professionnels des médias de rallier Kaloum, le centre-ville de la capitale et siège de la haute autorité de la communication. Lamine Guirassy, PDG d'Adafo Média, et Nour Diallo, administrateur général de GuinéeMatin.com, tous sont venus protester.
Ce qui se passe dans notre pays, c'est juste incroyable, inimaginable. On a vu venir ça de loin. Maintenant, si on est divisé, évidemment, c'est bonjour à tout ce qui peut arriver après à la presse. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'unir pour défendre les acquis.
En réalité, on est en train de bafouer toutes les libertés. Aujourd'hui, on veut intimider le seul canal par lequel les uns et les autres passaient pour dénoncer les violations des libertés, les violations des droits à la République de Guinée. Il faut que ça s'arrête.
Les deux journalistes de Lynx FM sont inculpés et placés sous contrôle judiciaire sous la base de la loi sur la cybersécurité. Une loi répressive qui inquiète Jacques Léoua Lénon, rédacteur en chef d'Espace TV.
Le fait que cette nouvelle loi qui traite de la cybersécurité soit utilisée pour juger les journalistes, je pense que c'est un mauvais choix et c'est une intimidation assez grave. Maintenant, le choix qu'on a fait aussi de venir à la Hague, je crois que le message, il est clair. La HAC doit être consciente qu'elle est elle aussi en danger. Parce que les ministres sont en train de l'oublier carrément pour aller vers les juridictions. Et si la HAC existait, c'est elle qui devrait recevoir en premier normalement les plaintes.
Le journaliste Aboubacar Diallo est interdit d'animer Œil de Lynx. Pour Aboubacar Camara, secrétaire général de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, c'est une violation de trop.
Il n'appartient pas à un juge comme ça dans la volée, sans passer par un juge. De dire à un journaliste tu es interdit de micro. Où est le jugement préalable? Il n'y a pas eu de jugement préalable. Il n'y a pas eu de jugement. Maintenant, sur quelle base le juge se fonde-t-il pour dire non, tel ne doit plus passer à l'antenne? On va de violation en violation.
Un mémorandum a été déposé à la haute autorité de la communication, mais les associations de presse guinéennes ont annoncé qu'elles se gardent le droit d'organiser dans les jours à venir d'autres formes de protestation sans exclure une journée sans presse. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En Côte d'Ivoire, permettre aux populations de faire confiance à leur police constitue une priorité pour les autorités, d'où l'initiation de la police de proximité. Les relations entre les policiers et les populations civiles, un état des lieux avec Aïcha Diarra, notre correspondante à Boaké.
Non, pour moi, il n'y a pas confiance à la police.
Ce manque de confiance s'expliquerait par un prétendu laxisme constaté de la police face à des situations d'insécurité, comme le dit M. Dambélé Ibrahim dans ses propos.
Bon, là, la population n'est pas en sécurité. Il y a trop de braquages. Braquage passé, braquage pas. Il n'y a pas d'enquête. On ne sait pas même pas ce qui se passe.
Aussi, en cas de difficulté, avoir recours à la police laisse par moments un arrière-goût amer à certaines personnes. Cet homme a préféré garder l'anonymat.
Police, même quand vous êtes ensemble comme ça, là, forcé, s'il y a un petit problème, c'est lui-même qui va me faire même en bas de toi. Aujourd'hui, même si tu as un problème aujourd'hui, là, si tu n'as pas quelqu'un derrière toi là aussi, tu sais que tu vas aller dedans.
En plus, la corruption dont fait preuve la police de Côte d'Ivoire n'est pas du tout rassurante pour sa population. Cet intervenant a préféré lui aussi garder l'anonymat.
La police doit mettre les véhicules ou bien des engins en règle. Mais ici en Côte d'Ivoire, on voit que c'est le contraire. Tu peux donner la pièce, même si tes pièces ne sont pas à jour, si tu mets quelque chose comme de l'argent, et ils prennent l'argent et ils n'arrivent pas à contrôler encore le papier.
D'où la nécessité pour l'État de mettre en place la police de proximité afin de créer un climat de confiance et de fraternité entre les policiers et les civils. La définition de cette police nous est donnée ici par M. Mobio Diangos Maxime, préfet de police de la région du Gbeke à Boaké.
Pour établir la confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut envoyer la police vers la population et la population vers
la police.
Voici le sens de la doctrine de la police de proximité.
La mise en place de cette police de proximité se fera en trois étapes, selon M. Kouadio Balé Henri, lieutenant-colonel, commandant adjoint à la 3e Légion de gendarmerie mobile de Boaké.
Pour mettre en œuvre cette doctrine de police de proximité,
nous avons eu 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation et la sensibilisation. Le deuxième pilier, c'est la sectorisation. C'est-à-dire que les différents quartiers, les communes seront divisées en plusieurs secteurs. Et dans ces secteurs-là, de façon constante, vous aurez des gendarmes qui seront constamment avec vous pour savoir quelles sont les attentes de la sécurité dans ces zones d'action. Et le troisième pilier, échanger sur l'évolution de la sécurité dans les différents secteurs. Mais je crois que d'ici 1 an, 2 ans, Inch'Allah, nous aurons une société à Boaké où il fera bon vivre. C'est notre espoir.
Il faut préciser que ce projet est déjà effectif dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et tient à s'étendre sur tout le territoire national. Aïcha Diarra, à Boaké pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au sommet du G7, qui a pris fin hier lundi à Biarritz en France, le président français Emmanuel Macron et les autres membres du groupe ont approuvé dimanche une enveloppe de 251 millions de dollars pour soutenir une initiative de la Banque africaine de développement visant à soutenir les femmes chefs d'entreprise en Afrique. Pour en savoir plus, John Lyndon s'est entretenu avec Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères, qui évoque également la question du G5 Sahel.
Comme vous savez, la Banque africaine de développement est une banque qui concerne les États africains, avec chaque État africain comme partenaire et actionnaire, mais également avec ce qu'on appelle les actionnaires non régionaux. Donc, la banque avait besoin d'une recapitalisation et surtout d'une ligne de crédit pour le financement assez précis concernant les femmes. Et aujourd'hui, vous savez, le poids des femmes dans l'économie africaine, et vous savez, la femme, dans la plupart des pays, c'est la moitié du pays. Et donc, les exclus de l'économie, ce serait donc comme si on tournait au ralenti. Et au contraire, les intégrer, ce serait donc booster l'économie de nos États. Bien que la femme est partout, en appui non seulement à l'homme, souvent dans les milieux traditionnels, mais c'est débrouiller elle-même aussi pour réussir dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du travail de la terre, dans le domaine de l'artisanat, ainsi de suite. C'est important et on est heureux de savoir qu'il y a cette possibilité-là aujourd'hui.
Un secteur qui manque aussi cruellement de financement, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. Le G5 Sahel continue de chercher des fonds. Est-ce que le G7 peut aider à ce niveau-là aussi?
La position du chef d'État du G5 Sahel, c'est qu'il y a un engagement assez fort et conséquent des grands pays, des pays développés en faveur donc de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Parce qu'on s'est dit que la sécurité du Sahel, c'est la sécurité du monde, c'est la sécurité de tous les continents. Et donc, ça ne devrait pas être une affaire des seuls Sahéliens qui ne peuvent pas à eux seuls venir à bout ou du terrorisme, parce que partout où on a constaté que le terrorisme sévissait, aucun État, aucune région n'a réussi à s'en sortir d'elle-même. On a vu les coalitions qui se sont mises en place en Syrie et autres, pour venir à bout donc du terrorisme. Et l'idée des 5 chefs d'État africains, c'est qu'on puisse mettre en place quelque chose de ce genre. Et c'est ce que le président en exercice du G5, le président Rochman Christian Kabore, a appelé un partenariat international autour du Sahel. Et d'ailleurs, cette idée a rencontré l'assentiment donc des pays développés, notamment la France et l'Allemagne.
Le chef de la diplomatie du Burkina Faso, Alpha Barry.
À partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English, un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. À très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.